Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Didier Bourdon est bien plus que le tiers d'une équation à trois inconnus. Derrière sa vis comica délirante, depuis longtemps déjà, on sait que celui qui fut deuxième prix de comédie classique au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique peut tout oser jouer. Du plus loufoque au plus sombre. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que son autre passion est la musique. Et j'invite les auditeurs à aller sur son site Instagram voir Didier Bourdon faire un bœuf à la guitare avec Michael Jones. Alors voilà, il est bien naturel que tout cela finisse ou commence par des chansons. L'album sort le 11 juin. Il a pour titre Le Bourdon.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Didier Bourdon, en fait, ils sont assez nombreux les acteurs qui rêvent de s'exprimer sur le format court d'une chanson. Elise Moon a signé trois albums d'inspiration jazzy et bossa. Gérard Depardieu a chanté Barbara. Gérard Lanvin est l'auteur-compositeur-interprète d'un album aux accents revendicatifs. Daniel Auteuil sortira bientôt un album façonné avec Gaëtan Roussel de Louise Attaque. Et vous, Didier Bourdon, êtes-vous dont la musique est donc la deuxième passion, mais secrète, voilà que vous sautez le pas avec un album que vous avez écrit et composé, teinté d'une ironie vraiment vivifiante, avec un sens certain de la mélodie, comme le prouve d'ailleurs le morceau Do Sol Mi. Mais comme le premier titre de l'album est « Pourquoi tu te mets à la chanson ?», j'avoue que j'ose à peine vous poser la question.
Oui, je démarre par cette chanson parce que souvent les gens dans la rue, ou même les journalistes, en effet, me disent « Tiens, tu te mets la chanson ?» Et puis après, c'est vrai que très vite, je leur dis « Les Inconnus ». Ah bah oui, c'est vrai, Les Inconnus, il y avait plein de chansons. C'est assez marrant le déclic, parce que ça se fait vraiment dans la seconde, quoi. Mais je sais pourquoi, parce qu'à l'époque, les chansons des Inconnus, c'est vrai, étaient présentées d'abord comme des sketchs.
Ouais.
Et c'est seulement, peut-être, depuis quelques années, c'est vrai, je vois bien les internautes qui réagissent, qui disent « Mais putain, les chansons, en fait !» Et en fait,
c'était des chansons. Mais il y a de sacrés gimmicks, hein. Et les lignes mélodiques, ce sont des scies musicales. Composiez.
Oui, oui, on était là. Bah oui, j'adorais faire ça. Et en plus, il y avait un petit challenge parce qu'il y avait à trouver, bien sûr, le côté parodique qui était, on avait une vraie liberté dans la tête, quoi. Donc c'était un vrai enthousiasme de changer de champ d'écriture, et ça a donné. Alors voilà, oui.
C'est pour ça que je peux dire que vous êtes vraiment le seul acteur qui se lance dans la chanson avec déjà trois victoires de la musique, obtenues en 90, 91 et 92. C'est savoureux, finalement, de constater ça. Voilà, victoire de la musique obtenue pour les titres.
Il y a Automne Nuit Passy, je crois. Il y a aussi Les Vampires, je crois qu'on a vu un truc pour la chanson des Vampires, les Rap Tout.
Mis en musique. Bon, très jeune, vous êtes mis à la guitare classique. Vous avez monté des groupes ou pas ?
Non, jamais. Mais j'ai failli faire une école assez sérieuse, parce que j'étais doué certainement dans le sens où j'adorais ça. Et ils le voyaient bien, les profs. Mais après, j'ai dit non. Bon, je raconte souvent l'anecdote d'une de mes filles d'amis, enfin c'est presque ma cousine d'ailleurs, qui est devenue d'ailleurs altiste à l'Opéra de Paris, qui venait de temps en temps à midi avec ses parents manger, et puis je voyais bien que dès le début du repas, elle s'enfermait dans la chambre, répétait son instrument. Alors je me suis dit, oula, ça m'a l'air d'être assez âpre comme sacerdoce. Donc j'ai préféré la comédie, qui est un travail énorme, mais qui est un travail beaucoup plus de tous les jours. On se balade dans la rue, on peut travailler en regardant les gens et tout, voilà. Après, il y a un vrai travail d'acteur, bien évidemment, qui est un petit peu chiant, chiant. C'est pas chiant quand on est passionné, mais disons que dans la musique, je me suis dit, non, je ne verrais pas m'enfermer pendant des heures et des heures à faire mon instrument, c'est pas ça que je veux.
Et pourtant, sur votre site Instagram, on vous voit jouer donc de la guitare de façon très inspirée et délicate d'ailleurs, avec l'ex-guitariste virtuose de Goldman, Michael Jones. Et ben, vous nous aviez caché ça, Didier Bourdon.
Oui, enfin après, on est les trois, hein, dans Les Inconnus, on est musiciens. Après, je dis pas que je suis un grand guitariste, bien sûr que non, mais je me débrouille, voilà. Après, même la guitare classique, hein, je continue régulièrement à me faire mes petites partitions de Bach, voilà, je m'amuse. Il y a des jours où je vais mieux que d'autres. Oui, c'est un vrai plaisir. Mais c'est-à-dire que la musique, c'est quand même un kiff, quoi, il y a rien à faire.
Mais un bœuf à la guitare dans Taratata, alors ? Pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Mais je crois qu'on a demandé à Nagui. Je sais pas s'il va nous répondre. Ça me dirait bien de faire un duo à quelqu'un d'autre, de m'amuser. Ça serait bien.
Bon, et ben voilà. On va dire que la demande
Nagui,
est lancée.
Si tu nous entends, je peux l'appeler parce que mais après je sais pas où.
Bon, revenons à l'album qui est vraiment infusé d'humour et d'autodérision. Dans le premier titre, sur lequel vous assurez vraiment à la guitare, vous chantez. Pourquoi tu te mets à la chanson du con? Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme ces comédiens bidons. T'as pas ta place dans la chanson du con. Vous faites très très fort, Didier Bourdon,
oui,
dès le premier texte.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans mes chansons, j'interprète souvent des personnages, et là, c'est quelqu'un qui un peu m'interpelle. À la fin, on comprend que c'est un musicien qui me dit, si t'as le temps, écoute ce que je fais. Donc, c'est marrant, parce que j'avais déjà écrit les premiers textes il y a quelques années, quand même. Et en fait, les réseaux sociaux n'ont fait que, voilà, que rendre cette chanson d'autant plus d'actualité, parce que voilà, on peut pas faire un truc sans qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, ah, pourquoi tu fais ça, et pourquoi, bah, moi, je serais danseur classique dans ce cas-là. Vous voyez, il y a toujours un petit peu ce côté, je m'amuse là-dessus, parce que je sens la détresse du personnage. Alors ça me permet bien sûr au premier degré de passer quelques messages dans le texte, mais ça reste quand même à la fin un personnage qui s'adresse à moi et qui en fait demande qu'une chose, c'est écoute ce que je fais, quoi, merde, il n'y a pas que toi, quoi. Donc voilà, et à chaque fois il y a un personnage derrière. Même dans la chanson peut-être la plus proche de moi, ça serait
qui
Comme
est
je vous envie,
oui.
Que j'ai écrite après la mort de mon père, et qui, voilà, le refrain c'est... C'est après le beau temps vient la pluie, alors c'est pas très joyeux, mais c'est quand même pas non plus désespéré. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut profiter des bons moments parce qu'à un moment donné, ça se court.
On chemine avec Didier Bourdon cet après-midi. Alors on fait une pause très courte et on se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Didier Bourdon, vous aviez 3 ans et demi quand votre famille en 62 a été rapatriée d'Algérie. Si l'Algérie n'existe pas vraiment dans votre mémoire, est-ce que elle existe pour vous quand même d'une autre manière?
Oui, non, oui, je me rends compte, je l'ai pas encore l'âge de ma grand-mère quand elle a quitté son pays, l'Algérie, pour venir en France à Bourg-en-Bresse. Je me souviens d'ailleurs l'hiver 63, il paraît que c'était un hiver rigoureux. Et je me rends compte que j'aime pas encore l'âge. Je me dis quand même, arrivé à 65 ans. Dans un contexte complètement différent, c'était une femme courageuse quand même.
C'est
des vies. Alors bon, il y a des gens qui ont connu des choses encore plus terribles, hein, l'exil encore aujourd'hui, les gens qui crèvent sur les bateaux. Donc voilà, c'est vrai que ça résonne en moi. Ça a été quand même certainement vraiment un déchirement pour elle. Mais j'ai pas souvenir d'une. Bon, j'étais jeune, bien sûr, mais d'une femme qui s'en plaignait. C'était le côté bon, on va de l'avant et on profite. Tant que je suis en famille, c'est l'essentiel.
Quel était le métier de votre père?
Alors mon père, en fait, il a dû choisir entre, quand il est arrivé en métropole, en France, donc entre l'EDF et la SACEM.
Et là, c'est pas
père,
vraiment la même chose.
Non, je lui en veux, il a choisi l'EDF.
Juste fait gagner un tout petit peu de temps. Bon, au gré des mutations de votre père, vous avez donc sillonné la France, Didier Bourdon, mais vous avez passé, paraît-il, beaucoup de temps au Pays Basque. Le Pays Basque, il a une identité très forte.
Ah
hein,
oui.
C'est pas une région soluble dans le reste du territoire. On grandit avec quelle conviction quand on grandit comme un Basque?
Quand je vois le BO jouer, je suis pour le BO. Quand je vois l'Aveyron bâillonner, je suis pour l'Aveyron bâillonner. Mais quand... J'espère que non. Ou alors, sauf si Biarritz arrive en top 14 et que Bayonne reste, il pourrait y avoir Bayonne-Biarritz à nouveau. Là, je serais un peu plus pour Biarritz. Mais c'est parce que, voilà, mais j'adore l'Aveyron bâillonner, oui.
Ah, et il y a l'accent qui revient. Bon, Didier Bourdon, vous avez un frère plus âgé que vous, de 2 ans. Et alors, lui n'a pas versé dans l'humour. Il a fait Normal Sup. Okay, on peut faire Normal Sup en ayant énormément d'humour, mais
oui,
bon.
Oui, il en a quand même.
Il en a. Mais c'est dire quand même si, à 20 ans, les deux fils Bourdon avaient des vies, même pas différentes, on peut dire opposées. Donc l'un était artiste et l'autre était le pur intellectuel, ou c'était beaucoup plus complexe que ça?
Oui, c'est plus complexe parce que j'ai dû être aussi un bon élève, même plus que ça, parce que mon père m'avait dit, voilà, il faut que tu aies le bac brillamment si tu veux faire du théâtre. Et après, il faudra que tu rentres soit à la rue Blanche, soit au conservatoire. Donc voilà, je peux comprendre, hein. Étant moi-même maintenant papa, je peux comprendre qu'un jeune homme qui veut faire du théâtre, c'est toujours un peu un enfant, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est pas du tout antinomique, en revanche, non, pas du tout, puisque j'ai toujours été, mon père me l'a appris, même ma mère, voilà, la lecture, la curiosité... L'intelligence n'a rien à voir avec la culture, hein, ça je crois que même dans certains sketchs on l'a prouvé. Mais en revanche, c'est vrai, se cultiver, ça peut aider à s'ouvrir vers les autres quand même.
Mais vous aviez une ambition très structurée quand même à 20 ans, puisque donc vous êtes entré au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.
Oui.
Vous rêviez de quelle carrière?
Ah ben non, alors ça, j'aurais jamais imaginé avoir la carrière d'un trio si populaire. Ça non, ça c'est sûr. C'est très juste, d'ailleurs. C'est très étonnant, mais souvent c'est un peu un lit de hasard. Il y a une conviction. J'adorais ça. J'adorais, voilà, j'avais lu toutes les pièces de théâtre de Molière, de Racine. J'adorais ça, j'adorais le théâtre, j'adorais aussi les choses un peu plus modernes. On parlait d'Harold Pinter l'autre fois, voilà, je passais d'ailleurs le concours avec l'amant de Pinter, c'était un théâtre un peu différent. J'adorais ça. J'aurais pu rentrer à la Comédie Française, François Chaumette m'avait proposé, mais...
Mais oui, parce qu'il faut préciser, rappeler donc que vous avez obtenu le deuxième prix de comédie classique.
Oui, parce qu'il y avait encore des concours dans cette composante du conservatoire.
Ouais.
J'avais comme prof Jean Meyer, Robert Manuel, que j'ai beaucoup aimé, Lise de Lamar. J'ai été aussi un petit peu dans les cours de Michel Bouquet, j'ai été courtisé aussi, entre guillemets, par Antoine Vitesse, que on était quand même tous fascinés par son travail, puis il voulait que je vienne, et puis voilà, ça, c'est des jolis souvenirs, tout ça.
Il vous a souvent dirigé, Jean Meyer, metteur en scène de légende de la Comédie Française, n'est-ce pas?
Oui, il m'a donné vraiment des rôles très très importants, mais à un moment donné, j'ai dit stop, parce que j'ai tout fait un petit peu. Ce sont des moments pénibles, hein, parce qu'il me proposait Néron dans Britannicus, et puis je pouvais plus. Je pouvais plus parce qu'il était...
Mais c'est extraordinaire, parce que j'ai en face de moi Didier Bourdon, des inconnus. Les inconnus, 700 millions de vues sur Internet. Vraiment, le phénomène d'humour sur au moins 2 décennies. Et vous êtes en train de me parler de Britannicus et de Jean Meyer qui voulait donc vous diriger, de la Comédie Française que vous avez refusée. C'est extraordinaire.
Si je peux expliquer une chose au public, c'est que entre jouer Néron dans Britannicus et Véronique dans Stéphanie de Monaco, je peux vous dire que c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça.
Bon, alors, expliquez.
Si je faisais rire dans ce... Ben, quand il dit, je vous m'avais dit de dire Hardy, je peux vous dire que c'est aussi déchirant que dans une scène de tragédie, il faut être sincère. Et plus on est sincère, plus les gens rigolent. Et d'ailleurs, on est épuisé. J'étais épuisé après le sketch parce que il faut pas regarder le public, il faut souffrir avec elle, quoi. Alors après, le personnage est peut-être un petit peu moins reluisant encore que Néron, c'est pas forcément un personnage très attrayant, mais bon, c'est sûr que c'est pas un empereur romain, Véronique dans Stéphanie Monaco. Mais pour elle, c'est aussi important de perdre au jeu que de brûler Rome pour Néron. Vous voyez, c'est ça, c'est les rapports sont les mêmes, hein, c'est vraiment la sincérité. Surtout que ce sont des moments de crise. D'ailleurs, les sketchs, ils font rire, c'est parce qu'il y a des moments de crise.
Ah bah oui. Je ne sais pas à quel degré vous êtes, on pourrait imaginer que vous êtes au 17e degré, mais non,
pas du tout.
Mais dans quel rôle à l'époque, vous distribuait-on? Alors là, vous nous parlez de Néron, mais parce qu'on classait les jeunes comédiens selon des emplois, ce qui n'existe plus du tout au conservatoire. Généralement, vous distribuez dans quel genre de rôle?
Ben, les emplois reviennent, hein, semblerait-il, avec certaines couleurs de peau, mais c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'étais jeune premier, oui, voilà, à 20 ans, un peu brun ténébreux. Donc j'avais joué le chandelier avec Marie-Hélène Breillat, qui était ravissante.
Ouais.
Donc c'est une pièce de Musset. J'avais joué un peu trop tôt le misanthrope. Jouer le misanthrope à 20 ans, c'est un peu jeune. C'est un personnage quand même un peu complexe et tout, mais enfin bon, ça a été un vrai plaisir.
Et vous avez joué dans le colonel Chabert de Balzac.
Alors, le colonel Chabert, c'était un petit rôle, ça nous permettait de gagner un petit peu notre vie pour nous payer notre cantine.
C'était... Mais c'est pour prouver en tout cas que le contexte était très différent de ce qui vous attendait par la suite.
Oui, mais en même temps, ça m'a nourri, ça m'a formé. Je suis sûr que ce travail-là a été très très utile après pour mon travail avec mes collègues dans Les Inconnus, hein, ça c'est sûr et certain.
On est en compagnie de Didier Bourdon sur Europe 1 cet après-midi, et c'était pas tout.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Cher Didier, une chose vraiment m'intrigue. En 78 et 79, alors on le disait à l'instant, vous jouiez Alfred de Musset, Balzac, Stéphane Zweig, Molière, dirigé par une légende de la Comédie Française, Jean Meyer. En 81, vous sortez donc du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique avec le deuxième prix de comédie classique. Et en 82, on vous retrouve au Petit Théâtre de Bouvard, entre Pascal Légitimus, Bernard Campan, Seymour Bruxelles et Smaïn, en train de faire se plier de rire les Français tous les soirs à partir de 19h45. Alors très concrètement, je voudrais que vous m'expliquiez, qu'est-il arrivé pour que, si je résume, vous passiez d'Alfred de Musset à Philippe Bouvard? Vous saviez que vous possédiez ce tempérament comique, ça vous le saviez quand vous étiez au conservatoire, ou bien ça a été une découverte due à des rencontres?
Alors ça, non, faire rire, ça déjà j'aimais bien faire rire déjà avant. J'étais passé par le conservatoire de Saint-Germain-en-Laye avec Madame Jacqueline Jabour, qui n'est plus de ce monde, mais qui était un prof formidable, qui a eu d'ailleurs... Vladimir Udanov comme élève, Eric Elsmosnino, enfin
elle était formidable. Oui.
Et déjà, alors je faisais un peu de tout hein, chez elle, ça passait du tragique, du romantique, à des choses plus badines, on va dire. Et l'humour, ça j'ai toujours aimé ça. J'aimais les films d'humour, j'aimais les Monty Python, j'aimais W.C. Fields, j'aimais déjà les films comiques, la Grande Vadrouille, des choses comme ça me plaisait bien. Et c'est vrai que quand on a ce don-là, ben, on ne va pas s'en priver, hein, parce que c'est quand même un don.
Mais quand même, vous êtes passé d'une planète à une autre, en quittant le Conservatoire National, et soudain, en vous lançant dans des sketchs, en démarrant une carrière d'humoriste.
C'est un peu différent, c'est sûr. Encore que au Conservatoire, je me souviens de... Moi, je n'ai pas travaillé ça, mais il y avait les Diablogues du billard, donc... qui ressemble un peu aux des chiens d'ailleurs, hein. Les des chiens sont un peu inspirés, c'était déjà, il y avait déjà des élèves qui jouaient des choses comme ça. Molière quand même, il y a des choses formidables, c'est parfois, c'est des sketchs dans une pièce qui sont très difficiles à jouer, par exemple qu'allait-il faire dans cette galère, il le dit je sais pas combien de fois, pour aller au tréfonds pour trouver la sincérité du personnage, pour pas que ça fasse redite, pour que ça devienne drôle parce que le type ne pense qu'à ça, c'est presque une punchline comme on dirait aujourd'hui hein. C'était un champion de la punchline ben voilà, je pense que la base c'est toujours incarner, être sincère, nos sketchs même si ça durait 3 minutes, les personnages étaient toujours là quoi. Même au Théâtre de Bouvard. Au Théâtre de Bouvard, c'était quand même très esquissé. Hein. Même, d'ailleurs, il n'y a pas de décor, c'est ça qui était génial.
Exactement.
On ouvrait une porte, on faisait ah, excusez-moi, je veux faire. Bon, voilà. Il fallait esquisser, voilà. C'était plus la caricature. Après, dans les Escaliers Inconnus, c'était plus fouillé, plus travaillé. Mais on est toujours dans le même vecteur. Quoi.
Alors, c'est au Petit Théâtre de Bouvard, effectivement, qu'avec Légitimus, Campan, Bruxelles et Smaïn, vous avez eu l'idée de monter un groupe, une troupe, que vous avez baptisé Les Cinq. Bon, on va résumer, Philippe Bouvard vous a collé un procès. Donc, les Trois Mousquetaires étaient 4, Les Inconnus, finalement, seront 3. Et ce nom, Les Inconnus, c'était un pied de nez à Bouvard.
Exactement, c'est ça, oui. Oui, parce qu'on avait été quand même peinés, on avait 24 ans, et ils nous avaient fait un procès. Bon, voilà, parce que il y avait des organisateurs qui rajoutaient Les Cinq et en dessous du Théâtre de Bouvard ou Découvert au Théâtre de Bouvard et donc ils nous reprochaient d'avoir utilisé le nom alors que c'était pas nous, bien sûr, c'était les organisateurs donc ça va, ça pas allé loin le procès mais on a eu peur un peu à l'époque, on était jeunes et en fait c'est pas allé bien loin mais voilà, bon.
Alors,
c'est pour
à la
ça qu'on s'est appelé Les Inconnus parce qu'on s'est dit au moins
voilà. Alors pendant 15 ans entre Télémagouille, Perdu de Recherche, Manu tu descends, Les Urgences, Les Flics, Les Pétasses en discothèque, Raptou, Les Vigiles, Auteuil Neuilly, Passy, Stéphanie de Monaco, et puis bon, j'en passe. Bah, vous avez fait une véritable OPA sur le rire en France. Face à vous, pendant 8 ans quand même, il y avait les nuls, mais vous répondez, citez-moi un sketch des nuls.
C'est-à-dire, c'est pas du tout le même champ créatif, en fait. Les nuls ont créé vraiment un ton nouveau.
C'est ça.
Et c'était d'ailleurs des journalistes.
Vous, hein, c'était des sketchs.
Nous, on était plus dans le jeu, comme je vous disais, on regardait pas le public sur scène. D'ailleurs, les nuls n'ont pas fait de scène parce que c'est pas leur truc, quoi. En revanche, après, il peut y avoir des points communs dans le pastiche de pub, des choses comme ça, mais ça, plein de gens le font de manière différente. Non, je dirais aujourd'hui, ça serait peut-être plus le Palmachot, d'ailleurs, qui se réclame beaucoup des inconnus, voilà, qui vont un peu plus dans le côté, ils incarnent des personnages, choses comme ça. L'Aspas et ses chevaliers, ça serait presque plus les nuls, c'est-à-dire des personnages qui regardent le public et qui balancent des trucs. Vous voyez ce que je veux dire dans l'ordre des choses. C'est pas exactement les mêmes univers, c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle.
Mais n'empêche, les inconnus écrivaient eux-mêmes tous leurs sketchs, les textes des nuls ont été... la plupart du temps écrit par Jean-Marie Bigard.
Certains, je ne sais pas si...
Pas
tout,
mal.
Tout, ouais. C'est pas du tout
ça
le même.
Ça ne retire
parcours.
Rien à leur talent, bien évidemment.
Ah non, ben bien évidemment.
Bien
en plus,
évidemment,
c'est pas,
mais...
C'est pas le même... C'était les débuts de Canal, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on enregistre là où certainement ils devaient faire leur sketch. Hein. Mais quand même, il y a certainement une filiation, parce qu'il y avait quand même cet humour un peu les nuls, les inconnus. Enfin, nous, c'est un peu le hasard par rapport à Bouvard, mais enfin, il y avait... D'ailleurs, à Canal, on avait proposé une émission qui s'appelait Canal Moins. puis bon, après c'est les
ça
nuls.
S'est pas fait.
Ça s'est pas fait à l'époque, non, c'était début de Canal. Donc il y avait toujours ce côté un petit peu les anti-héros, quoi, voilà.
Eh bien, c'est un trait héroïque anti-héros que je reçois cet après-midi. Didier Bourdon, voilà, avec qui on se promène et qu'on retrouve tout de suite. Il est temps d'écouter un extrait de votre album, Didier Bourdon. Do, sol, mi.
J'aurais pu tout aussi bien vous chanter un opéra de Verdi façon Pavarotti. Être inspiré, savoir trouver les mots comme Victor Hugo. Vous m'avez dit non, ne complique pas, fais simple, on t'en voudra pas. Juste un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie,
ça suffit.
Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. un sol, un do et un mi, trois accords, une mélodie. J'aurais pu faire l'artiste un peu bizarre, tout seul à la guitare, façon Django Reinhardt, ou m'inventer des trucs hyper balèzes, dirigés par Pierre Boulez. Vous m'avez dit ces gars-là, on connaît pas, un conseil oublie tout ça, juste un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie,
ça suffit.
Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. Trois accords, une mélodie. Je t'ai dit tout bas dans tes bras, le hasard n'existe pas. Citant Nietzsche et Spinoza. Et quand t'as voulu baisser les lumières, je t'ai parlé d'Heidegger. Tu m'as dit pour être heureux dans la vie, oublie ta philosophie. Juste un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie. Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. Trois accords, une mélodie. Un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie. Ça suffit, un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies.
C'était Do Sol Mi sur l'album de Didier Bourdon.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Très efficace pour lutter contre le bourdon, l'album du même nom, écrit, composé et interprété par mon invité, plus connu comme acteur, humoriste et réalisateur, Didier Bourdon. Voilà, son album sort le 11 juin. Alors, cher Didier, je sais que vous aimez cette phrase. Il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a que des grands rôles. Or, le spectre des scénarios qu'on vous propose, il est extrêmement large, allant des comédies ultra populaires aux films intimistes ou aux drames. Ce qui fait de vous vraiment l'un des rares comédiens à pouvoir jouer dans La Cage aux Folles, mais aussi dans La Promesse de l'Aube de Romain Gary, porté à l'écran avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg, et quatre fois nommé au César. Donc, on peut dire que finalement, ce métier, il lit en vous les gens qui vous proposent tous ces rôles, les réalisateurs.
Oui,
les producteurs.
Peut-être pas assez, d'ailleurs, parfois c'est...
Pas assez.
Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui... Bah, je sais, parce qu'il y a des... Par exemple, j'avais fait un très très joli Perrichon avec Eric Lavenne. Bon, c'est... je l'ai croisé une fois, j'avais aimé son premier film, Poltergeist. Et, ah bon, tu vois, il savait pas que je pouvais peut-être, voilà, être intéressé à rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Donc, il m'a proposé ce Perrichon de La Biche revue et corrigée. J'ai passé un très très bon moment, c'est un super moment d'acteur.
Alors, vous avez une image... de neurasthénique gay, de dépressif joyeux, d'humoriste encombré par le spleen. Elle peut aller jusqu'où dans les coups de blues, cette noirceur, cette gravité?
Demandez à mon assistant.
Est-ce que vous vous méfiez du bonheur pour être ainsi?
Ah, j'aimais bien cette chanson de Gainsbourg, Fuir le bonheur de Perkins Sauf, qui est un peu triste en même temps, mais... Non, peut-être, je suis un peu moins cyclotimique que quand j'étais plus jeune, on va dire.
Vous calmez.
Ouais, j'essaie de me calmer. Mais ça se fait même naturellement, d'ailleurs, on va dire. Voilà, les pulsions sont moins fortes dans tous les sens du terme, et donc les pulsions négatives aussi. C'est-à-dire, je peux avoir un peu de mélancolie, mais voilà, je la gère mieux qu'avant.
Alors parlons d'enthousiasme. Jusqu'à présent, Didier Bourdon, quel est le rôle, au théâtre, à la télé ou au cinéma, hein, quel est le rôle qui a mis en alerte 100% de votre singularité, celui vraiment pour lequel vous êtes dépassé.
Ah, dépassé, alors ça dépend des rôles. Après, je prends toujours ça à bras-le-corps, hein, ça, je donne à 100%. Je pense par exemple Les Trois Frères, ça a été très dur. Enfin, en plus, on réalisait, mais il y a des scènes fortes, quoi. La scène du Petit Prince, quand je lis Le Petit Prince, qui a le petit enfant devant, le blond, puis mes deux copains qui pleurent derrière, c'est un moment fort, c'est un moment fort. Après, c'est vrai, dans les téléfilms dernièrement qu'on m'a proposé, j'ai dans le Burnout, ou quand dans de Didier Bivel, ou le téléfilm de Duringer, où je tue mon gamin au début, c'est des moments durs. C'est des moments forts pour un acteur, parce que voilà, c'est pas anodin non plus. Après, on se remet, hein, mais voilà. Mais dans les grands, grands moments, il faut y aller à fond, et que ce soit une comédie.
Le grand acteur, c'est celui qui parvient à être honnête, chaque fois, à chaque seconde.
Ah, je crois, oui. Moi, je pense que...
Honnête. Vrai.
Et qui donne tout. Alors après, parfois, il peut y avoir aussi des acteurs qui donnent tout, mais ça passe pas à l'écran. C'est pas parce que vous pleurez que ça va forcément émouvoir. Il y a une magie de... Il y a le metteur en scène, ce qui compte, hein, qui vous aide, hein, quand même. Mais après, oui, il faut...
Vous venez de dire, c'est pas parce qu'on donne tout que ça passe forcément bien à l'écran.
Ah, ouais, bien sûr, oui. Ça, c'est terrible. Hein. Mais après, j'ai remarqué quand même avec le temps, on gère beaucoup mieux ça. On gère beaucoup mieux ça. C'est quand on est jeune, où on croit qu'il faut faire ça. Non, non, attendez... On a beaucoup plus d'aisance. C'est-à-dire que ça va, on peut être un petit peu en dessous, mais les gens s'en apercevront pas. Quand on est jeune, on dit « Oh putain, j'étais mauvais ce soir !» Non, pas forcément, t'étais peut-être même mieux qu'hier, parce que t'as été un peu moins énergique sur une scène, et l'émotion est passée beaucoup plus. Mm-hmm. C'est toujours un petit peu se cacher derrière. Vous voyez, c'est... Et d'ailleurs, il suffit d'être... Tout à l'heure, je disais, quand on est acteur, on travaille pratiquement tous les jours, quand on regarde les gens. Moi, une chose qui m'avait vraiment bouleversé, c'est quand les parents avaient vu leur fille astronaute mourir en direct parce que ça avait explosé. Là, je me souviens plus quelle navette c'était triste. Et ben, je peux vous dire qu'ils ont compris, mais ils bougeaient pas. Et c'était très, très émouvant parce que on voyait que... Oui, ils sont pas pleurés, alors qu'est-ce qui se passe?
C'est une sidération muette.
Voilà. Et ben, ça, faut, comme acteur, faut se essayer de penser ça. Penser jusqu'où je dois faire ou jusqu'où je dois me pas faire, au contraire.
On change de planète. Parlons des humoristes. Des humoristes aujourd'hui, contrairement à vous avec Les Inconnus, contrairement aux Nuls, contrairement à la troupe des Nous c'est Nous avec Jean Dujardin et Bruno Salomon, les humoristes aujourd'hui sont tous en solo. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait plus de troupe de bande, ni même de duo d'ailleurs comme Éric Ramsey ou Cadet Olivier?
Alors il y a les Palmachos quand même qui sont en duo. Mais c'est vrai que c'est une question presque sociologique. Alors, est-ce que c'est économique?
Alors, quelle est la réponse?
Est-ce que c'est devant l'écran, on a besoin que d'être seul?
Est-ce que c'est parce que l'époque en fait, des réseaux sociaux est une époque narcissique, fait seul ses vidéos dans sa chambre et c'est ainsi qu'on démarre une carrière?
C'est possible. C'est possible qu'il y ait une raison sociologique. C'est possible. C'est possible, ouais. Après, il y a aussi peut-être une question technique aussi. Par exemple, les studios d'enregistrement, aujourd'hui, dans un petit appartement, on pouvait enregistrer. À l'époque, il fallait quand même pas avoir de l'espace, puis même pour enregistrer les instruments et tout. Peut-être qu'il y a aussi une région technique aussi, peut-être, je sais pas. C'est une bonne question, en tout cas, hein, parce que il y a la bande à Fifi, quand même, Philippe Lachaud, quand même. Il travaille en groupe, quand même.
Voilà, mais au cinéma.
Au cinéma. Et d'ailleurs, tous les groupes cartonnent, parce que le fait d'être à plusieurs, ça vous permet d'aller plus loin, comme on dit. Tout seul, je vais plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin.
Didier Bourdon, dans l'humour au féminin, la patronne aujourd'hui, pour vous, c'est qui?
Oh, en Foresti, déjà, ça fait un bout de temps. Il y a Blanche Gardin qui a son univers qui est formidable. Enfin, franchement, moi, d'ailleurs, je fais pas de différence entre hommes et femmes, franchement. C'est pour ça que quand j'entends ces discours, moi, je vois bien, même au lycée...
Je vais corriger, dire des filles qui ont choisi l'humour. Voilà, et pas l'humour au féminin, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'humour féminin ou masculin, mais dans la gente féminine qui pratique l'humour, Blanche Gardin...
Oui, là, mais il y en a toujours eu, en fait. Alors, certainement, c'est peut-être qu'il y en a eu plus de mecs, et encore côté de Bouvard, moi, on parlait de mes copains, mais voilà, j'étais avec Michel Bernier, avec Mimi Mathy. Muriel Robin aussi qui est venu, mais qui était conservatoire aussi, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, vous voyez, déjà, c'était. Voilà, après, il y avait les comédiennes comme.
Michel Larocque.
Michel Larocque, bien sûr, mais dans les.
Qui
dans
est en duo les générations. Avec vous, ouais, sur l'album, Le
bien
Bourdon.
Sûr. Non, mais je pense à Maria Pacôme, je pense à Sylvie Joly, je pense à. Déjà, c'est... bon. Alors après, ça n'a rien à voir. Il y a des filles qui vont me faire rire, d'autres non. Des mecs qui vont me faire rire, d'autres non. Après, ça dépend. Parfois, c'est un univers qui va me faire rire. Parfois, c'est juste un sketch.
Mais alors, parlons de la notion du féminin. Parce que cette notion du féminin, vous l'avez souvent distordue dans vos rôles, avec votre goût du travestissement. Vous avez été Madame Édouard, vous avez joué Madame Irma, vous avez incarné Zaza Napoli dans La Cage aux Folles. Mm-hmm. Bon, se travestir, c'est singulier. D'où vous vient ce goût du pastiche féminin ?
Ah bah c'est le pastiche en général. Je pense que c'est très intéressant pour un acteur de. Alors en plus dans les films que vous avez, enfin les exemples que vous avez donnés, c'est toujours différent. Dans Zaza, c'est vraiment une femme à l'intérieur, comme disait Pierre Mondi, qui m'a dit quand tu joues. Tu... Dans Madame Irma, c'est différent. C'est quelqu'un qui se travestit, qui fait croire que c'est une femme. Dans Madame Édouard, c'est un vrai travesti qui avait existé dans mon quartier, à Montmartre, et qui est décédé depuis, qui était un travesti d'ailleurs, un personnage assez marrant, puisqu'il prenait pas trop soin de lui dans le côté coquet, mais c'était un personnage du quartier qui gardait les clés des gens. Voilà, et c'est pour un acteur, c'est toujours très intéressant d'essayer de fouiller, parce qu'on dit les hommes, les femmes, après bon, il y a des physiques complètement différents, mais il y a quand même dans la voix un travail d'acteur à faire. Je suis désolé, à la radio, je pense que si on dit quel est l'homme, quelle est la femme, on va vite vous reconnaître et me reconnaître quand même, hein. Il y a dans la voix, dans le son. Après, il peut y avoir bien évidemment des hommes qui ont des voix féminines, le contraire, mais c'est à travailler. Est-ce que dans Madame Irma, je trouve un peu un personnage, un petit peu, voilà, il cache sa voix un peu roumaine, un petit peu mûre et sage, oui.
Par il y a contre, côté Elvire Popesco, là.
Voilà, un petit peu sage, un peu, dans Stéphanie Monaco, c'est un peu différent. C'était vraiment la pétasse un peu que j'aime bien, mais bon. Oui. Donc il y a un travail qui va vachement bien. Après, quand je fais voilà, le pastiche de femme intello de la couille française, c'est plus bon, ok. Voilà, il y a un travail aussi technique qui est très intéressant avec la voix.
C'est Didier Bourdon qui nous embarque cet après-midi. C'est formidable. Alors, on s'interrompt vraiment un court instant et on le retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet.
Didier Bourdon, c'est chic d'être dans le Laos. Comment vous a-t-on prévenu que vous alliez entrer dans le dictionnaire ?
Non, c'est pas chic.
Mais si, c'est chic.
Oh là, ça sent le sapin.
Je dirais plutôt que c'est une reconnaissance assez exceptionnelle.
Oui, oui, oui.
Donc quand vous ouvrez un Larousse, c'est certainement pas pour aller vérifier que
non,
vous êtes en alors bonne
là,
place.
Franchement, non, 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 non. Ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. En effet, voilà, c'est cet album, parce que j'ai mis du cœur, parce que ça renoue un petit peu avec mon souci, voilà, j'aime bien l'écriture textuelle et aussi musicale, donc voilà, ça me plaît.
Et d'ailleurs, j'aurais des questions à vous poser sur d'éventuels showcases sur ce nouvel album intitulé Le Bourdon, mais comme là, on parlait à l'instant des Inconnus, je l'ai rappelé tout à l'heure, les Inconnus, ils totalisent 700 millions de vues sur Internet, bon, Beyoncé n'a qu'à bien se tenir. Chaque fois qu'une chaîne de la TNT fait une soirée spéciale en diffusant vos sketchs, ça fait un carton d'audience. Alors, bon, c'est bien que Bernard Campan est un petit peu frileux devant un projet, même ponctuel, même ultime. Oui, ouais, il est un peu frileux face à une éventuelle reformation des Inconnus, mais que peut-on dire au public? Les dernières retrouvailles pour une tournée des Zéniths, ces dernières retrouvailles, elles auront lieu un jour ou jamais?
Je sais pas. Après, sur cet album, ça a été l'occasion de se retrouver, parce qu'on a fait une version acoustique de Vice Versa, et c'était super sympa de retrouver Bernard et Pascal en studio, on a enregistré. Donc on va voir, on se voit, hein, je peux pas en dire plus. Voilà, l'amitié est toujours là, bien évidemment. Après, voilà, il faut peut-être trouver le bon moment avec Bernard, avec Pascal, avec moi aussi. Hein, c'est vrai que ça peut faire peur aussi, hein, mais il faut vaincre cette peur.
Vous reprendriez les anciens sketchs,
oui,
remanier.
Sur scène, ça serait ça, mais ça peut être autre chose.
Vous les retravailleriez vraiment au goût du jour ou vous n'y toucheriez pas?
Ah non, on retravaillerait certainement, ce serait un vrai plaisir de reformuler des choses, encore qu'il y a plein de choses qui ne bougeraient peut-être pas tant que ça, somme toute. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est dans ma tête un petit peu, bien sûr.
Il paraît que Claude Lelouch, à une époque, avait approché les Inconnus pour faire un film avec lui. Pourquoi ça n'avait pas abouti?
Je ne sais pas. Après, Claude Lelouch, j'imagine qu'il. Voilà, il est venu me voir d'ailleurs au théâtre il n'y a pas longtemps, il a été vraiment super. J'aimerais bien un jour faire un film de Claude Lelouch, mais bon, j'imagine qu'à l'époque, on était peut-être plus sur autre chose. Lui aussi avait 36 000 projets. Et voilà, ça s'est pas fait, mais à cause de ça, certainement.
Alors, en fait, vous avez réuni les gens que vous aimez sur ce nouvel album baptisé Le Bourdon, parce qu'il y a effectivement Pascal Légitimus, il y a Bernard Campan, il y a Michel Larocque.
Michel Larocque, c'est pour un duo, tout à fait. Et elle a accepté. C'est vrai que j'aimerais bien la retrouver maintenant, Michel, aussi au cinéma, parce qu'on n'a jamais vraiment fait de duo. Ça me plairait bien de faire un duo avec elle. Vraiment. J'ai fait pas mal de duos ces temps-ci avec Balasco, avec Nathalie Baye. Mais Larocque, il y aurait certainement une belle chose, je sais pas.
Je vais vous poser une question qui va surprendre tout le monde, mais j'ai appris vraiment la passion que je vais évoquer est tout à fait étonnante. Ma question, c'est en fait, parmi tous ces amis, ni Pascal Légitimus, ni Bernard Campan, ni Michel Larocque ne vous ont jamais accompagné dans vos très étonnantes pérégrinations à la campagne à la recherche des champignons les plus rares. Parce
c'est
que
vieux, ça.
Je précise que vous êtes un mycologue distingué. Il paraît que longtemps vous avez été membre du cercle mycologique de Reims.
Oui,
ça consiste en quoi être membre du cercle mycologique de Reims?
Il y a des rendez-vous avec des colloques, notamment un colloque fameux une fois. Où
sur les champignons donc.
Il y avait un pharmacien, oui, sur les champignons, mais son prétexte c'était plutôt l'alcool parce qu'il disait quel vin accompagner quel champignon. Et c'était un pharmacien qui ne doit plus être de ce monde certainement, mais il nous avait bien fait rigoler, il était très marrant. Et en fait c'était peut-être plus un prétexte pour parler des nouveaux crus que des champignons. Mais,
mais la passion des champignons, elle vous est venue comment?
C'est la passion de la nature, hein, Pays Basque. Hein. Après, d'ailleurs, j'ai vécu en Alsace.
Ouais.
Là aussi, c'est une autre région vraiment qui m'a aidé, d'ailleurs, maintenant, dans plein de sketchs. D'ailleurs, voilà. Et c'est des régions qui ne vous laissent pas indifférents, parce qu'il y a une vraie identité. Les Pays Basques, c'est là où j'ai découvert, bien sûr, les champignons, la forêt d'Irati, tout ça. Et les insectes, ça serait l'Alsace.
Mais alors, quels sont les champignons les plus magiques, les plus savoureux à cuisiner, qu'on trouve communément dans nos forêts françaises?
Il y en a un qui est formidable, que vous pouvez trouver partout, c'est le champignon de Paris.
Voilà. On le trouve partout, le champignon de Paris, pas qu'à Paris.
Oui, et c'est un champignon alors, en plus assez rare, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup comme ça, ou qu'on peut manger cru, comme cuit. Il y a l'oronge qui est comme ça, la manite des Césars, alors ça c'est plus difficile à trouver. Mais c'est un très 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 bon champignon, le champignon de Paris.
Bon, alors celui-là,
c'est le rosé des prés aussi.
Voilà, c'est un champignon.
Ça, je peux vous faire tout un cours.
Ah oui, non, mais ça serait formidable. Ouais. Mais
il y a
un champignon.
Le Morisetus qui est très très bon.
Un champignon, ça peut être l'arme du crime parfaite, parce qu'il ne faut pas s'aventurer à cuisiner ce qu'on ne connaît pas.
Ben, vous goûterez des choses avec moi.
Me dit-il avec un sourire qui m'inquiète beaucoup. Vous n'avez jamais été malade en cuisinant des champignons que vous aviez récoltés vous-même?
Non, Dieu merci, mais il faut faire attention. Attention, hein, c'est pas comme l'alcool où on dit avec modération. Il faut bien faire attention avec les champignons. En général, voilà, il vaut mieux aller voir le pharmacien avant de les manger. Il y a un très joli roman, le roman du tricheur de Sacha Guitry, qui commence comme ça, où toute sa famille mange des champignons. Lui, il est puni. Il n'a pas le droit d'en manger, tout le monde meurt, sauf lui.
Voilà. Ça donne des petites indications sur la manière dont il se comportera ensuite.
Ouais, exactement,
parce
il est
que
magnifique.
Voilà. Bon, l'honnêteté, mais on retrouve tout de suite Didier Bourdon.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Didier Bourdon, ça fait 8 ans que vous n'avez plus réalisé de film. Vous avez mis sur pause ou bien il faut prendre ça comme un renoncement?
Ah, bonne question. Bonne question, parce que j'ai tourné récemment avec Josiane Balasco. Je lui ai dit « Pourquoi tu refais pas de film ?» Et elle, honnêtement, elle m'a dit « Tu sais, le couperet du mercredi, la sortie du film, c'est pénible. C'est pas uniquement le mercredi, mais j'imagine, voilà, un film, c'est quand même beaucoup de travail. C'est au moins 2 ans de boulot, d'écriture, de mise en scène, monter le film, le vendre ensuite. » J'avoue qu'il y a peut-être un peu de ça chez moi, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on me propose beaucoup de rôles. Et qu'à l'époque, quand j'ai réalisé, ou quand je jouais par exemple La Cage aux Folles, j'en parlais l'autre fois avec un journaliste, j'ai dit non à beaucoup de choses en tant qu'acteur,
oui.
Parce que je ne pouvais pas faire les deux, hein, voilà, honnêtement. Et là, aujourd'hui, je me rattrape, puisqu'en plus, on me propose des rôles magnifiques. Donc voilà, après, j'ai un petit peu dans la tête la possibilité de me dire, tiens, un jour, je vais réaliser. Mais c'est pas. Voilà, j'ai envie de rattraper un peu le temps perdu de tout ce que j'ai refusé. Mais pas parce que je n'aimais pas, mais c'est parce que je ne pouvais pas le faire.
Alors, vous évoquiez à l'instant cette angoisse qu'ont tous les réalisateurs et réalisatrices, puisque vous en parliez avec Josiane Balasco, de cette fameuse première séance à 9h du matin. Moi, je vous avoue, Didier Bourdon, qu'il y a ce concept, j'ai toujours eu du mal à l'admettre, parce que c'est vraiment l'épée de Damoclès, n'est-ce pas? Le taux de remplissage de la première séance à 9h du matin, le jour de la sortie d'un film. Mais qui va au cinéma à 9h du matin, à part un oisif ou un déprimé? À 9h du matin?
Non, ça marche plus, 9h du matin. Franchement, ça...
Bon, ça on écarte.
Non, ça, on écarte. En plus, il y a
mais
vraiment...
Mais il reste quand même le taux de remplissage la première journée.
Bon, la première journée était plus importante. Après, il y a aussi entre... Avant, c'était Paris, mais maintenant, Paris-Provence a complètement changé. Et puis, quand même, aujourd'hui, il faut quand même bien le dire. D'ailleurs, je l'ai dit à Josiane, je dis, tu sais, aujourd'hui, ça a un peu changé quand même, parce que le film ne dépend plus de la première journée maintenant. Il y a quand même beaucoup plus
De bouche à oreille.
Le bouche à oreille, puis surtout le fait qu'après il peut revivre en VOD, il peut revivre sur les plateformes, il peut revivre... Il y a beaucoup... D'ailleurs, il y a des films qui sortent même plus au cinéma, qui cartonnent. Même
oui,
les séries
sûr.
Qui cartonnent. Les séries, parfois, elles ne cartonnent pas tout de suite. Hein. Il n'y a plus ce couperet. Il peut y avoir une série qui démarre, puis les gens en bouche à oreille, hop, ça explose, alors que ça fait au moins 6 mois que la série est sortie. Donc ça change un petit peu. Mais à l'époque, il y avait ce couperet. Pourquoi ? Parce que si ça ne marchait pas au début, bah après, bah le film, il l'enlevait.
Il l'enlevait très vite des salles. Et voilà. Il fallait attendre de le voir à la télé, par exemple. Alors, cette année, Didier Bourdon, vous serez à l'affiche de deux films. Et je suis persuadé que toutes les séances seront remplies.
Cette année, je ne sais pas encore si c'est cette année. Mais,
ça va peut-être être 2022. Alors,
c'est possible,
par exemple,
on ne sait pas.
Mes très chers enfants, avec un duo de choc, Balasco, justement, et sa fille, Marie-Lou Berry.
Et Ben, l'humoriste aussi, qui fait qu'ils sont nés de nos deux enfants.
Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce
film,
cette comédie-là ?
Oui, le pitch est génial. C'est un couple, Josiane et moi, et Josiane vraiment commence à broyer du noir parce qu'elle n'arrive pas à avoir ses enfants. À chaque fois qu'elle veut faire le repas de famille ou à Noël, ils ont toujours un prétexte. Et je la vois tellement déprimée que je commence à être contrarié et je lui dis « Tiens, j'ai une idée, on va leur faire croire qu'on a gagné au loto ». Et là, les choses ont changé. Donc, il y a toujours ce côté acide d'Alexandre Leclerc.
Bien sûr.
Mais c'est fait avec beaucoup de tendresse.
Voilà. Et alors, permis de construire avec la délicieuse Anne Consigny. Alors là, quel est le pitch ?
Alors
là,
c'est Eric Farticelli, qui est un acteur que les gens connaissent beaucoup. Il a fait notamment Fioza à Canal. Et puis, c'est un humoriste corse très, très connu. Et là, il a écrit un scénario très, très drôle. C'est le rôle d'un Parisien, mon personnage. Je suis marié avec Anne Consigny, puis d'un seul coup, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, il hérite d'un terrain en Corse et il doit construire une maison. Et construire une maison en Corse, le permis de construire, déjà en France,
ça va être chaud.
L'actus révélateur. Mais ouais, ça va être chaud.
Comme la température, comme la météo là-bas. Bon,
j'ai une autre actualité, je te l'ai parlé. Là, c'est un téléfilm réalisé par Gilles Paquet-Brenner. Qui avait réalisé, elle s'appelait Sarah, qui est un très très beau film, et qui a réalisé, parce qu'il a coécrit avec Jarry, l'humoriste, un joli téléfilm sur la vie de Jarry, et je joue le père de Jarry en fin de parcours, puisqu'il a eu un cancer, il est mort. Et c'est, paraît-il, moi je ne l'ai pas vu, mais vraiment très très émouvant, ça passera en septembre.
En septembre, sur TF1. Voilà. Et le titre, ce sera ?
À tes côtés.
D'accord. Bon, en tout cas, en attendant toutes ces sorties, et en attendant de découvrir ce téléfilm sur TF1 en septembre, c'est vraiment votre album, baptisé Le Bourdon, avec lequel voilà, vous faites l'école buissonnière, album qui dit beaucoup de vous, avec vraiment l'humour tel une protection. Et j'ai appris, Didier Bourdon, vous m'avez dit ça au moment d'une pause, j'ai appris que vous alliez faire des showcases, comme les stars anglo-saxonnes, c'est ça ?
Je sais pas, en tout cas je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à mon ami Michael Jones qui m'a proposé, c'était le hasard d'ailleurs, hein, parce qu'il était pas au courant de mon album, il m'a proposé de participer à son émission qui s'appelle Confiture, qui marche bien là sur YouTube, sa chaîne, et on a fait un petit bœuf avec des musiciens, une grosse pointure, et j'ai même interprété, il m'a demandé de chanter une chanson hors répertoire. J'ai repris Wish You Were Here de Pink Floyd parce que c'est en référence à Syd Barrett.
Ouais.
Et ça s'est super bien passé. Vraiment, j'étais très heureux. Voilà, j'ai chanté deux de mes chansons.
Je vous sens heureux. Vraiment.
Mmh. Oui.
Oui.
Oui, aujourd'hui. Oui.
Cette sortie d'album.
Oui,
vous fait du bien.
Oui, ça fait du bien. Ben, c'est-à-dire que la musique adoucit les mœurs, comme on dit. C'est vrai, c'est le fait de parler de Michael Jones. Franchement, ça a été un plaisir fou parce qu'il y a d'abord, le Michael Jones lui-même est un garçon délicieux. Puis il a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Goldman, qui, à mon avis, est un grand, grand, grand monsieur aussi. Et humainement, en plus. Et là, il était entouré de musiciens et ça s'est super bien passé parce que je flippais un peu quand même. Hein. Même si je gratouille, ils m'ont mis à l'aise. J'ai passé un super moment. Donc voilà, ça me donne confiance. C'est mon album. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont l'aimer, d'autres qui passeront à côté, c'est normal. Mais voilà, je veux en tout cas que ceux qui peuvent l'aimer puissent avoir la chance de l'écouter. C'est aussi un cadeau qu'on leur donne. On est des artistes hein, quand même.
Les 1008 Didier Bourdon. L'album a pour titre Le Bourdon, il sort le 11 juin. Merci infiniment. Infiniment, je vous dis à très vite.
Ben, à très vite, hein, c'était super. Voilà.
Merci.
C'est un bon moment.
À bientôt, Didier.
Au revoir.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.